Et notre invité ce matin, Yvan Chex, qui est directeur de l'Agence de développement économique et touristique des Hautes-Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Bel été pour les Hautes-Alpes.
Oui, c'était une belle saison d'été. Il faut retenir deux chiffres. D'abord, la croissance d'activité, 1% par rapport à la saison dernière. Et puis, le volume que représente la saison touristique, ce sont quelques 10 millions de nuitées et 373 millions d'euros de consommation touristique.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Hautes-Alpes sont sorties de crise, cette fameuse crise que l'on avait notée il y a quelques années, avec des nuitées qui ne se faisaient plus et une érosion dans les chiffres?
En tout cas, on est reparti à la hausse, et ce depuis 2015. C'est la quatrième année consécutive de croissance d'activité touristique pour le département des Hautes-Alpes. Et c'est intéressant parce que c'est un des départements de montagne qui progresse le plus. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Alors, la saison d'été a été marquée par la belle météo. On sait que c'est essentiel pour toute activité touristique, en particulier en montagne, et on a vraiment profité de cette conjoncture. Ce qui caractérise la saison d'été, c'est la très forte concentration d'activités sur le mois d'août. À lui seul, il porte les deux tiers de l'activité touristique. Le mois de juin a été bon, très bon, et il progresse régulièrement avec beaucoup de clientèle internationale, notamment sur nos grands cols, beaucoup de cyclistes, de motards. Le mois de juillet a été médiocre, voire mauvais, et ce n'est pas nouveau, et c'est tout l'Hexagone qui est frappé par cette tendance qui se confirme d'année en année.
Il y a une explication à ça?
Alors, elles sont multiples, les explications. La plus raisonnable, c'est de considérer que les Français ne partent plus en juillet. Quand on regarde la consommation de séjours, on s'aperçoit que les Français partent beaucoup au mois de mai, beaucoup au mois de juin, et qu'ils concentrent leurs vacances d'été sur le mois d'août. Et on n'arrive pas à inverser la tendance. Les seuls sites qui arrivent à contrecarrer ce mouvement, ce sont ceux qui organisent de façon régulière et importante des événements sportifs ou culturels. Cela arrive à générer une activité supplémentaire sur le mois d'août. On l'a bien vu avec le Tour de France, qui a généré une petite embellie sur cette séquence-là.
Petite embellie, alors ça veut dire que c'est une petite déception?
Non, ah non, c'est un grand succès. C'est moins important que ce qu'on avait pu réussir en 2017, mais le dispositif de 2017 était assez exceptionnel. On a une croissance d'activité sur la semaine du Tour de France. Il faut toujours garder à l'esprit...
De combien?
Alors, c'est une croissance d'activité de plus 20%, une croissance additionnelle. Et c'est la seule semaine où l'on progresse au mois de juillet. Donc l'impact est réel. Il est plus marqué sur l'étape Embrun-Valoir que sur l'étape Pont du Gard-Gap, même si l'arrivée à Gap a été assez animée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est... Alors, les retombées économiques sur le moment. On parle beaucoup des spectateurs, mais il ne faut pas négliger le Barnum Tour de France. Ce sont quelques 3000 organisateurs, compétiteurs, accompagnants qui séjournent chez nous. Le coût de projecteur médiatique qui est considérable et l'effet de traîne. Tous ceux qui fréquentent les grands cols savent de quoi je parle. Le département des Hautes-Alpes a communiqué il y a quelques jours le nombre de passages de cyclistes sur le Galibier, le Lautaret, l'Izoard et les autres grands cols du département des Hautes-Alpes. Ça ne cesse de progresser. Ce sont des clientèles qui viennent surtout au mois de juin, au mois de septembre, beaucoup de clientèles internationales, et elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là parce qu'elles sont sur les routes du Tour. Donc quand on essaie d'évaluer un événement comme le Tour de France, il faut s'inscrire un peu dans la durée. Il ne faut pas simplement regarder le bénéfice du moment, l'effet de traîne est considérable. Donc voilà une saison d'été qui est plutôt bonne, et puis une arrière-saison qui tient son rang. Le mois de septembre a été plutôt bon. Peut-être également du côté des éléments marquants de cette saison d'été, c'est la côte du lac.
J'allais vous poser la question, vous le disiez, la météo a été bonne, ce qui forcément renouvelle aussi la confiance des touristes, mais le lac de Serre-Ponçon, la cote a été plus basse que d'habitude. D'ailleurs, certains politiques aujourd'hui sont en train, et notamment Jean-Marie Bernard, sont en train aussi d'alerter EDF pour bien spécifier que l'usage du lac est aussi touristique.
Alors, c'est un enjeu considérable. Il y a deux éléments qui montrent bien les bouleversements climatiques et les conséquences que cela peut avoir sur l'activité touristique. C'est d'abord la très bonne fréquentation des activités de haute montagne. Alpinisme, escalade, gardien de refuge ont fait une très belle saison d'été. Avec là encore quelques modifications des comportements, des très fortes périodes sur le mois de juin où les courses ont été un peu avancées ou retardées selon le point de vue. Et puis la côte du lac avec des cours d'eau anormalement bas. Lié à l'épisode de sécheresse, tout simplement. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les acteurs de Serre-Ponçon se sont remarquablement organisés. Ils ont trouvé des solutions. Il n'y a pas eu d'impact sur la fréquentation touristique. La fréquentation de la destination Serre-Ponçon reste la même. Il y a eu quelques modifications sur la consommation parce que forcément, les prestataires les moins bien servis ou les plages les moins bien loties ont souffert de cette cote anormalement basse. Mais j'allais dire que tout le monde a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Il ne faut pas que ça se reproduise. Voilà, il faut que l'on trouve des solutions pour que cette situation exceptionnelle ne se reproduise pas.
Comment faire ? Est-ce qu'il y a des discussions qui vont être engagées avec EDF ?
Alors, sur le temps court, c'est effectivement des discussions avec EDF. Il semblerait en vérité que EDF ait plutôt bien apprécié son modèle climatique, avec la fonte des neiges en altitude, les précipitations. Ce qui a été plus difficile à apprécier, ce sont les droits de tirage des agriculteurs de Provence, qui, victimes de la sécheresse, ont fait valoir ces droits de tirage. Et du coup, la cote s'est dégradée plus rapidement que prévu. Donc il faut bien comprendre ce qui s'est passé, éviter que cela se reproduise dès la saison prochaine. Ça, c'est sur le court terme. Et puis sur le temps long, effectivement, il faut rebattre les cartes, d'où la position du département de Jean-Marie Merdard, pour que les Hauts-Alpins puissent faire entendre leur voix et qu'on trouve un juste équilibre entre préservation de la ressource, qui est très abondante, mais qui est extrêmement fragile, arbitrage des usages, le tourisme, l'agriculture, la consommation d'eau potable, les énergies, et puis, bien évidemment, la répartition des richesses, parce que le lac de Serre-Ponçon génère une manne importante.
Aujourd'hui, le département parle de mettre en place une société d'économie mixte mêlant privé et public pour gérer le barrage de Serre-Ponçon, puisqu'il sera ouvert à la concurrence dans les prochaines années. Ça aussi, c'est une bonne chose que le département puisse prendre part à la gestion du barrage.
Et c'est essentiel. On voit bien que l'environnement est une cause fondamentale qui occupe tous les esprits. La gestion de l'eau deviendra probablement l'un des grands enjeux du siècle qui s'ouvre. Et comment imaginer que les départements qui sont les plus vertueux en termes de consommation, de production d'énergie, n'aient pas leur mot à dire sur cette grande distribution d'eau. Donc je crois que c'est assez fondamental. Je crois savoir que le département des Hautes-Alpes est en train de se rapprocher d'autres départements alpins, l'Isère, les Alpes-de-Provence, la Savoie, l'Haute-Savoie, pour que l'on porte une voix commune et que l'on fasse vraiment entendre la voix des territoires.
Quand ça a l'air mal parti du côté des Alpes-de-Provence.
Ben écoutez, on verra. Mais je pense que ceux qui ne se saisissent pas de cette opportunité-là comprennent mal le monde tel qu'il va. Ce sont les enjeux de demain. Si on doit vraiment faire un peu de prospection et de prospective, je pense que demain, il n'y aura rien de plus important que cela. L'environnement et l'eau. Et notre responsabilité, c'est de pouvoir être du bon côté de la barre. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ce département qui est extrêmement vertueux, qui fournit près de 50% du besoin d'électricité de la région sud, qui permet d'irriguer quelques 100 000 hectares de terres agricoles, qui est l'un des grands bassins touristiques nautiques avec le lac de Serre-Ponçon. Comment est-ce que ce département ne pourrait pas faire entendre sa voix sur la préservation de la ressource, qui, je le redis, est très fragile, et sur les arbitrages et l'usage ? C'est la position contraire qui est assez incompréhensible.
Vous le dites, il y a deux mots-clés, l'environnement, il y a donc l'eau, il y a aussi la population. Ça, c'est le mot qui vient chez Stéphane Scarafaggio, le président de la Fédération du BTP dans les Hautes-Alpes, qui s'inquiète aujourd'hui, ça fait des mois d'ailleurs qu'il s'inquiète, de la disparition de cette population des 20 à 40 ans qui part des Hautes-Alpes pour aller travailler ailleurs et qui manque cruellement dans la main-d'œuvre aujourd'hui. Il demande à ce qu'il y ait un travail transversal qui soit fait entre le monde économique et le monde politique pour qu'on puisse toujours avoir cette attractivité du territoire qui s'adresse à eux.
Oui, alors je partage le point de vue de Stéphane Scarafaggio sur une partie de la problématique. Effectivement, on a des difficultés de recrutement. On voit bien qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi dans un nombre important de filières. Le bâtiment et les travaux publics, mais également les services à la personne, le tourisme. En vérité, le besoin en main-d'œuvre, il est préoccupant pour toutes les filières. Là, je le rejoins. Effectivement, quand on regarde la pyramide des âges du département des Hautes-Alpes, on a une population de jeunes et de jeunes adultes en deçà de la moyenne nationale. Mais ce n'est pas nouveau, et c'est surtout, et c'est en vérité le lot de tous les départements ruraux, parce que les jeunes et jeunes adultes quittent le département pour suivre des formations et souvent pour trouver un premier emploi. Donc effectivement, il faut travailler à cette attractivité-là, mais quand on regarde la démographie des Hautes-Alpes, je pense qu'il y a un élément qui est plus préoccupant que celui-ci. C'est celui des migrations locales. On voit bien qu'il y a une très forte concentration de la population sur l'agglomération gaponaise et sur les principaux bourgs, au détriment des communes périphériques. Et ça peut poser de vraies difficultés d'aménagement du territoire et de développement économique.
Parce que les services publics, après, ne s'implantent plus, faute d'effectifs aussi.
Prenons l'exemple du Queyras, si le Queyras se vide de sa population. Parce que les Queyrassins, en recherche de services, s'installent à Guillestre. L'économie du Guillestrois Queyras sera bouleversée. Il y aura de moins en moins d'autochtones, mais il y aura également de moins en moins de touristes, parce que les touristes ont besoin de séjourner dans des lieux vivants. Et si on n'est pas capable de stopper cette hémorragie, de rééquilibrer les flux démographiques à l'intérieur du département, je pense qu'on va devant de quelques belles difficultés.
Comment le faire ? Est-ce qu'il y a certaines pistes qui sont évoquées aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut combattre toute idée de centralité, qui est une idée qui est chère à bon nombre d'administrations, qui considèrent qu'il faut regrouper les populations sur les centralités urbaines, parce que ça règle les problématiques de transport, de services. C'est une aberration dans nos départements ruraux. Il faut fixer les populations dans nos petites communes qui font souvent la richesse économique, agricole du territoire. Et là, il faut faire entendre notre voix, qui est toujours une voix singulière. C'est la grande difficulté des Hautes-Alpes, c'est que c'est un département singulier. Et qu'à chaque fois qu'on est traité de façon uniforme, on est maltraité. Donc il faut que nos interlocuteurs comprennent bien les spécificités de ce territoire, qui a une faible démographie, qui a une géographie tout à fait particulière, mais qui manque ni de richesse, ni de talent. Et d'ailleurs, les chiffres de l'économie l'attestent. Hein. Le département des Hautes-Alpes se porte bien. Nos entreprises ont une activité soutenue qui ne cesse de progresser également. Et c'est de bonne guerre.
Merci beaucoup Yvan Chèque. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence de développement économique et touristique des Hautes-Alpes. Merci d'avoir été l'invité du 8-30.